What? He's so...
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ReLife, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous accueillir dans votre podcast pour l'amélioration du quotidien et le développement personnel, et je suis accompagné bien entendu de Matt. Salut Matt, comment vas-tu?
Ça va très bien, mon équipe de hockey est rendue en série, alors on suit avec...
Ça veut dire quoi en série?
Ah, bon. Alors, je vais faire votre éducation. On a une saison normale, et après ça, ben, les meilleurs de la saison normale continuent de jouer, et les moins bons arrêtent de jouer, et s'en vont en séries éliminatoires. Et puis là, on s'en va en séries éliminatoires pour le Québec. Après ça, on ira dans des séries éliminatoires pour savoir qui est le meilleur au Canada. Alors, on va essayer de voir si on est le meilleur au Québec, et puis après ça, ben, on va se battre contre les Ontariens, les Canadiens de l'Ouest et les Canadiens de l'Est.
Très bien. Bon, on pourrait faire un micro-débat Québec, mais tu nous le referas une autre fois. Mais ça montre que le Québec est une entité à part entière, y compris dans l'organisation de ses propres sports. Donc, hyper intéressant. Salut Julien, merci beaucoup pour ta patience quant à cette intro interminable avant de te laisser la parole. Comment vas-tu?
Salut Guillaume, salut Matt, ça va très bien. Merci.
On est en pleine forme pour vous parler d'un rêve d'enfant que Julien a réussi à réaliser, amoureux des nuages. Écoutez-nous, vous allez voir le témoignage de Julien. Et puis, on a des petites discussions de notre côté avec des thèmes qu'on a un peu suivis à droite et à gauche. La tradition veut qu'on dise un petit peu comment on va, quelles sont les nouvelles. Matt, à part ta passion soutenue du hockey, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Tu as sorti un nouvel épisode d'Apple Différemment, ça continue toujours sur une belle lancée.
Oui, Apple Différemment va bien, Apple et compagnie va bien, et puis ben, personnellement, tout ça, ben, ça va aussi très bien, ça fond, alors je ne peux que me réjouir.
Et oui, c'est cette période où la neige se transforme en torrent que tu nous décris chaque année. Tant mieux. Julien, comment vas-tu de manière générale? Est-ce que tu as une actu perso à nous partager?
Je vais très bien. Comme toujours, beaucoup de travail. On a terminé une levée de fonds qui a duré 3 mois. Donc, j'étais un des leaders du projet, en tout cas sur la partie technique. Donc, je suis bien content que ce soit terminé et que ça se soit bien.
Et que ça soit bien passé, du coup. Ouais.
Ça s'est très bien passé. Donc, on est très content. Et pour fêter ça, je pars en vacances vendredi pour 10 jours en France, voir un peu la famille, les amis. Ça va être très bien.
Tu vas où, sans nous dire précisément où, mais tu vas où en France?
Je vais sur mes terres natales, à Bordeaux, un peu à La Rochelle, voilà, passer peut-être un peu de temps dans ma ville d'adoption, dans ma hometown, là où j'ai grandi, dans la Gâtine profonde.
Très bien. Eh ben écoute, profites-en bien, je vais vous faire part de quelques petites actualités un peu rapides. Alors d'une autre part, on enregistre là le 2 avril 2023, et ça y est, moi c'est définitif dans ma vie, je déteste le 1er avril. Alors j'aime bien hein, que mes enfants me collent des poissons dans le dos avec le scotch, ça passe. Mais par contre, c'est horrible parce que je suis vraiment en angoisse complète dès que je lance mon smartphone ou mon ordinateur pour essayer d'aller suivre un peu de l'info. Il faut en permanence naviguer entre les blagues et les infos authentiques, en plus de la désinformation habituelle. Donc ça fait beaucoup de contraintes, et je me rends compte à quel point la vie dans laquelle on évolue maintenant en 2023 fait que bah, ça n'a plus trop sa place, je trouve, le 1er avril. D'aucuns défendront encore et toujours ce besoin de faire des blagues, et c'est bien légitime, mais moi de mon côté, je souffre beaucoup avec ça. J'en profite aussi pour souligner que c'est un mois record, le mois de mars qui vient de se terminer pour moi pour Tech Café, donc un volume d'audience record, donc ça c'est très très cool. Et j'en profite aussi pour mettre en avant un peu, là aussi oui, sous l'angle auto-promo, un épisode que j'ai enregistré tout récemment la semaine dernière et que j'ai diffusé ce vendredi au moment où on enregistre l'épisode de ReLife là. Sur les ESN, les entreprises du numérique, que j'appelais les SS2I, moi, quand j'étais sorti de mes études à l'époque. Donc, ces entreprises qui placent des consultants informatiques dans d'autres entreprises clientes. Et C'est une ex-manager qui est intervenue dans cette interview et qui a fait un témoignage un peu au vitriol de la manière dont ça marche. Et c'était intéressant de voir que de manière assez systémique, quand une entreprise place des ressources humaines, donc des personnes comme vous et moi dans d'autres entreprises, eh ben, ça laisse place inévitablement à une forme de toxicité, à une forme de travers de notre fonctionnement en société et à quel point ça fonctionne pas. Donc j'ai essayé de lui demander s'il y avait des remèdes miracles pour faire en sorte que ça se passe de manière éthique et saine, et à l'entendre parler ça paraissait très très compliqué. Je vous laisse aller écouter l'épisode et puis vous nous ferez vos retours, peut-être qu'on reparlera de ces environnements de travail dans Real Life, je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis deux autres petites choses de mon actu perso, je compense parce que vous aviez moins de choses à dire à ce sujet Julien et Matt, je me suis mis à The Last of Us Part 1 sur PlayStation, donc on parlait de PlayStation juste avant l'enregistrement de l'épisode, et il est arrivé aussi au passage sur PC, moi j'y joue sur PlayStation, et en fait pour la petite anecdote, j'avais le jeu depuis de nombreuses semaines dans ma bibliothèque. D'une part, j'avais pas beaucoup de temps, mais j'avais aussi très peur de le lancer. Ça m'angoissait, ce jeu, et je prends un plaisir assez dingue à me faire des petites sessions de jeu sur The Last of Us. Donc, allez jeter un coup d'œil si vous connaissiez pas, et puis envoyez-nous un petit message vocal pour nous dire à quel point c'est génial si vous êtes d'accord. Dernière chose, je cherche un orthophoniste. J'ai appris que mon fils, la maîtresse, là, il est en CP, donc je sais pas à quoi ça correspond chez toi, Matt, au Québec. Bon, une des premières classes en fait d'enseignement après les classes de maternelle, hein. Il a des vraies difficultés en français. Il est très à l'aise sur toutes les autres matières, mais en français, ça percute pas, ça inverse les lettres. Et elle commence à s'inquiéter sur peut-être une forme de dyslexie, quelque chose comme ça. Donc, je cherche un orthophoniste, mais c'est horrible. Un orthophoniste, là, pour en trouver un pour 2023, c'est mécaniquement impossible sans faire au moins une heure de route. Je suis estomaqué de voir que les ressources, les praticiens dans l'univers médical, c'est complètement inaccessible. Matt, est-ce que outre-Atlantique, c'est compliqué de voir des professionnels de santé de manière générale, des spécialistes, ou il y en a suffisamment? J'ai tendance à vouloir me rassurer en me disant que l'emploi là-bas est tellement compliqué que ça doit être encore plus dur qu'en France, mais bon.
On a la chance d'avoir un bon milieu scolaire pour mes enfants. Alors, on a tous les spécialistes qui sont directement à même l'école. C'est obligatoire chez nous. Alors, dès qu'il y a un enfant qui a des problèmes, ça doit être l'école qui s'en occupe, qui est en charge. Et puis, j'ai la chance qu'à mon école, on ait les orthopédagogues et tous les spécialistes qu'on ait directement. L'idée, c'est que l'enfant reste dans son milieu. Et puis que les professeurs puissent parler aux spécialistes pour intervenir de manière beaucoup plus proactive directement. Mais je sais que dans d'autres écoles, c'est un problème aussi, là. Alors, moi, j'ai la chance, mais peut-être tout le monde ne l'a pas, peut-être comme toi.
Écoute, ça fait rêver en tout cas de ce modèle-là. Je pense que ce sera pas de mal avec que ça changera en France, parce que d'ailleurs dans les pays où ça va pas, parce qu'il y a une inertie de fou sur la formation des praticiens de santé, mais bon. On enchaîne avec vos avis, vos interactions, vos retours, vos témoignages. Continuez à déposer vos avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, de manière générale, en mettant même peut-être des petites étoiles sur Spotify. Ça fait très plaisir. Et puis, vous pouvez nous laisser des messages audio. Vous allez sur relifepodcast.com et vous trouverez très facilement le bouton qui vous permettra de le faire en quelques secondes. Là, pendant que vous écoutez cet épisode, peut-être qu'une question vous brûle les lèvres. Mettez sur pause et déposez-nous un petit commentaire. On a un avis de Jacques Béranger pour commencer.
Salut l'équipe, j'ai super apprécié le dernier épisode. Je faisais juste un petit détexte par rapport à ce qu'a dit Julien sur le bullet journal et Notion. Je pense que quand vous démarrez avec Notion et dans un nouveau poste, moi j'ai beaucoup de management, beaucoup de projets, énormément de sujets différents. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider sur Notion par l'utilisation d'un template. En l'occurrence, moi j'ai acheté le Ultimate Second Bind qui était à 100€ avec un code à moins 50% et je l'ai énormément... comment modifier pour qu'il me corresponde bien, rien que le francisé. Mais c'est ce genre d'outil qui permet de bien classer ses notes, ses sujets, ses projets, ses tasks, qui permet d'avoir une très bonne organisation, d'être reconnu comme tel par ses patrons, par ses équipes, comme quelqu'un de fiable. Et je ne peux que recommander de s'inspirer et d'utiliser des templates déjà faits. Merci à vous, continuez, c'est super.
Merci Jacques. Moi, je vais pas répondre parce que j'utilise pas suffisamment les templates, mais Julien, tu confirmes un petit peu cette approche par le template qui fait quelque part que ça devient un applicatif spécialisé à part entière, hein.
Ouais, quasiment. Moi, j'ai pas utilisé beaucoup de templates personnellement. J'ai préféré mettre les mains dedans. Mais effectivement, c'est une bonne façon de, de commencer pas d'une page blanche et aussi d'appréhender un peu l'outil, de voir un peu ce que ça peut vraiment nous aider à faire. Faire attention quand même parce que ces templates, ils vont être vraiment créés par quelqu'un qui a une idée particulière et du coup, on va peut-être avoir tendance à peut-être modifier ses usages ou ses besoins en fonction du template et pas à l'inverse. Donc, il faut faire attention, mais en tout cas comme source d'inspiration ou comme point de départ. C'est excellent et c'est une très bonne idée qu'a eu Notion de présenter ça et de permettre à n'importe qui de faire un template, le présenter et laisser les gens le vendre ou le dupliquer.
100 €, moi je me disais, c'est dans l'absolu quand même vachement cher. J'imagine qu'il y en a des beaucoup plus chers. Après, effectivement, tout est rapport de temps gagné. Si jamais vous estimez que ce modèle de travail vous permet de gagner du temps, bah, finalement, c'est aussi à quantifier et relativiser. Et on a un deuxième avis, c'est celui de Zizou, un deuxième message vocal, pardon, de Zizou.
Bonjour, j'espère que vous allez bien, toute l'équipe. Avec Estelle, si elle, je ne sais pas si elle est encore là. Mais bon, je découvre que Encore a été racheté par Spotify en voulant enregistrer un message. À la base, je pensais envoyer un message directement à Julien, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser les auditeurs d'avoir la réponse. C'est à propos du budget et notamment le fait de provisionner ses dépenses par secteur. Est-ce que tu utilises une application pour ça? Une application que j'utilisais avant qui s'appelait YNAB, Y-N-A-A-B, qui était pas mal, mais est devenue, c'est passé en abonnement payant. Et c'est en plus, c'était pas vraiment compatible avec la France. On pouvait pas importer ses dépenses automatiquement. Et une autre question pour prof du web. Bouzou, est-ce que tu continues à l'utiliser parce que tu as pris un an d'abonnement ou tu aimes vraiment l'application? Allez, voilà, bonne journée à tous.
Alors, on a plein de retours du coup à faire de Zizou que j'avais croisé à Amiens, qui habite pas très très loin de chez moi. Je lui fais un petit bisou. Ça fait toujours plaisir quand on a vu les gens en vrai derrière les noms et les voix. C'est toujours cool. Alors, il n'y a plus Estelle qui nous accompagne, mais on lui passe quand même un petit coucou et un petit bisou. Il nous parlait donc des... Alors, aussi, autre parenthèse, il parle du rachat d'Encore par Spotify. Ça fait en fait même quelques années, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le cas. Et même la marque Encore tend à disparaître puisque Spotify est intégré Encore dans un écosystème qui s'appelle Spotify for Podcasters. Et ça reste pour nous, hein, je pense, peut-être la meilleure reco. Si vous voulez vous lancer dans le podcast, allez jeter un coup d'œil parce que c'est gratuit et vraiment, il y a toutes les fonctions pratiques. Il nous posait donc la question dans un premier temps de la gestion de budget. Il mentionnait cette app, Julien, YNAB, je connaissais pas moi.
Je connaissais pas non plus, pour être honnête, j'ai pas vraiment recherché quand je me suis mis au budget. Comme je disais dans l'épisode précédent, moi j'utilise pas mal ma banque N26 qui permet de faire jusqu'à 10 espaces. Alors j'ai touché la limite et du coup j'ai seulement compris un peu tard qu'on peut faire que 10 espaces, mais bon, ça permet quand même pour moi de gérer la plupart de mes budgets. Et en fait, l'application permet de rediriger, quand on reçoit son salaire par exemple, de rediriger un certain montant sur chaque espace. Donc en fait, je fais comme ça et ensuite j'ai eu un tableur Excel vraiment tout simple avec entrée, sortie, qui permet juste avec des sommes de voir si c'est équilibré, juste pour garder un œil et puis régler ça comme ça. Je fais ça dans mon tableur Excel, comme ça je vois tout bien et ensuite je rentre ça dans N26 et après c'est tout automatique, je m'en occupe plus. Donc voilà, un DIY, mais ça fonctionne.
Si vous avez des recos d'appli hein, de ce type, n'hésitez pas à nous dire, on est toujours preneurs. Et puis, Bouzou, la question de Zizou, Matt. Bon, en gros, Bouzou, t'es forcé de l'utiliser parce que tu l'as payé ou est-ce que tu l'aimes vraiment?
Ah, c'est une bonne question. Non, je l'aime vraiment, je l'utilise. Il est dans mon quotidien. Et puis, il y a aussi mon parcours. Quand on utilise ce genre d'application-là, ce qui est agréable, c'est de voir son évolution. C'est points de force, des points d'amélioration à avoir. Et puis, accessoirement, il y a des diplômes qui sont remis. Alors, c'est bien d'avoir les diplômes qui sont basés quand même sur un framework, je ne me rappelle plus le terme, là, mais qui est assez reconnu dans le domaine d'éducation. Non, je l'utilise parce que je le paye, parce que je l'utilise et parce que je l'aime et parce que je veux avoir les fonctionnalités avancées, notamment les diplômes.
On a un avis d'un autre Jacques, ou peut-être c'est le même d'ailleurs, allez savoir. Bravo la nouvelle équipe pour ce contenu très chouette. Je suis abonné et écoute dans les transports. Parfois un peu de mal à bien entendre Julien avec son timbre de voix. Bon, ça, on l'a corrigé maintenant, normalement, dites-le nous. Et puis enfin, dernier retour, dernier message de Jeff Redia. Matt, est-ce que je te confie le micro pour le relayer?
Oui, Salut l'équipe ReLife de Jeff Redia. On déguste votre podcast avec plaisir, du positif, plein d'infos variées, des rubriques sans cesse renouvelées, sans compter l'ambiance cabane à sucre, sirop d'érable incarné par le cousin du Québec. Et là, il y a une question. Je voudrais savoir dans quel épisode le petit nouveau nous racontera son expérience de vol en avion de chasse. Merci d'avance.
Ça tombe bien parce que ça va nous servir d'introduction pour le dossier que nous a préparé Julien parce qu'il a prévu tout le matériel pour vous partager cette histoire, ce témoignage qui, moi, me fait flipper, mais t'as pas idée. Julien, raconte-nous dans quoi tu t'es lancé, s'il te plaît.
Oui, alors cette personne a l'air très bien renseignée. c'est quelque chose que j'ai fait je me rappelle plus exactement, ça devait être il y a bien 3 ans. C'est vraiment un rêve. Un rêve quand j'étais plus jeune d'être pilote de chasse. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que je suis devenu ingénieur finalement, parce qu'on m'a dit « Ah, c'est mieux si t'es ingénieur ». Donc je me suis dit « Bon, ok, je pars là-dedans ». Et après, je me suis rendu compte que j'étais myope en fait, et que bah, de toute façon, je ne serai jamais pilote de chasse. Je me suis fait opérer depuis, et d'ailleurs, je vous le conseille, il y a DTC qui a fait une vidéo où il se fait opérer des yeux, il vous explique tout. Vraiment, si vous hésitez, n'hésitez pas. C'est un autre débat. Peut-être que je vous ferai un dossier sur l'opération des yeux un jour.
Moi, ça me fera flipper. Je pourrais vous dire pourquoi j'y ai pas droit. Mais oui, carrément. Mais je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que le pilote de chasse ait une bonne vue. Parce qu'en fait, tout est basé sur des radars, sur des ordis qui visent à notre place. Non, j'ai jamais compris pourquoi il fallait avoir une très bonne vue.
T'as déjà vu un aigle avec des lunettes, toi?
Non, mais l'aigle ne peut pas voir d'ordinateur de bord, tu vois.
Ok.
Ouais, c'est vrai que la première chose à faire, c'est quand même de regarder autour de soi et de toujours bien comprendre. Et en fait, quand on est même dans un petit avion, on se rend compte que quand on regarde loin pour voir un autre avion, en particulier un avion de chasse qui est quand même pas très grand, ça fait 12-15 mètres de long, c'est vraiment tout petit. Et du coup, pour bien avoir une situation awareness, bien comprendre le contexte dans lequel on est, il faut quand même avoir une bonne vue. Mais effectivement, pour regarder les instruments dans le cockpit, ça, c'est pas forcément le plus utile. Toujours est-il que j'ai compris très vite que j'étais myope et que c'était mort. Je me suis fait opérer un petit peu trop tard, beaucoup trop tard. Mais un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai googlé faire un vol en avion de chasse. Je me suis dit quand même, j'ai quand même le droit de le faire. Et en fait, j'ai vu que c'était possible, effectivement, à ma grande surprise. Il y a des gens qui achètent des avions de chasse réformés. Alors évidemment, ils ne sont pas militarisés. Et ils volent avec et permettent de voler avec. Et donc j'ai mis de côté de l'argent pendant des années, on reviendra sur le budget en conclusion.
C'était un espace N26 qui traînait depuis...
ça a traîné longtemps. Bref, et du coup, je suis passionné d'aviation depuis que je suis tout petit, ça m'a pas vraiment quitté. Du coup, je me suis dit que j'allais investir aussi dans un gros PC gamer, on en parlait tout à l'heure.
Pour
Flight Simulator 2020 que j'attendais avec beaucoup, beaucoup d'impatience pour pouvoir le faire tourner en VR avec un Oculus Quest 2, avec les joysticks et tout. Je me suis acheté la totale et j'avais vraiment envie de pouvoir vivre l'expérience à fond et comprendre tout ce qui se passait. Je me suis dit, tu vas pas mettre ce budget-là pour juste faire de la voltige, il faut comprendre, j'ai envie de comprendre ce qu'on dit à la radio, j'ai envie de comprendre les instruments de bord et j'ai envie de pouvoir potentiellement prendre les commandes si possible. J'ai fait ça chez Top Gun Voltige, alors il y en a plusieurs qui le font en France. le nom évidemment est évocateur. Top Gun Voltige à La Roche-sur-Yon en Vendée. C'est géré par d'anciens pilotes de chasse, en fait, qui se sont dit « Hey, pourquoi pas, on va permettre aux gens de faire de la voltige, ils ont plusieurs avions. »
Dis-moi qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Maverick.
Non, je ne me rappelle plus de leur tag name, mais il n'y a pas de Maverick.
Comment s'appelle Top Gun, d'ailleurs, en québécois, Matt? Parce que normalement, au Québec, vous n'avez que des titres de films francisés.
Je vais faire une recherche, je vais vous le dire après.
Excellente question. Et donc, comment ça se passe? Donc en fait, on arrive à la base, donc sur un aérodrome, un petit aérodrome. Ils ont un hangar, ils ont quelques avions. Donc on découvre l'avion sur lequel on a volé. C'était un L-39 Albatros. Donc le L-39, c'est un avion tchèque qui a été mis en service en 72. Donc c'est pas tout jeune. C'est un avion qui est relativement simple d'utilisation. Il a été reconnu assez rapidement comme l'avion d'entraînement un peu par défaut de l'OTAN, en particulier dans les pays de l'Est. Il y a 2900 exemplaires au total qui ont été produits. Est toujours en utilisation dans certaines armées, mais surtout pour de l'entraînement. C'est un jet biplace, sans post-combustion. Il demande assez peu de maintenance, donc ça qui est cool. Il est facile à manœuvrer, il a été relativement simplifié. C'est les commandes de bord qui sont directes, donc c'est vraiment quelque chose c'est ce qu'on fait un peu de plus simple dans les avions à peu près modernes, mais enfin modernes de l'époque, mais qui restent des jets. Pour ceux que ça intéresse, ça peut prendre à peu près 8G, ce qui commence à faire pas mal. Il y a un moteur unique qui pousse 17 kN. Pour une comparaison, un Rafale, ça pousse 50 kN. Donc voilà, un Rafale, c'est bimoteur, ça pousse vraiment beaucoup. S'il y a de la post-combustion, avec la post-combustion, c'est 75 kN. Donc bref, tout ça pour dire que c'est...
Excuse-moi, c'est quoi de la post-combustion ?
La post-combustion,
c'est comme la post-production, mais pour les moteurs, c'est ça ?
Non, je... La post-combustion, c'est ce qui se passe quand, quand on voit les jets qui ont vraiment une espèce de grande flamme derrière.
Okay.
C'est la post-combustion. En gros, je me rappelle exactement comment ça fonctionne. Je crois que ça rebalance encore plus d'essence un peu en sortie de réacteur et ça consomme énormément. Sur un Mirage 2000 de tête, ça, on arrive à consommer à peu près 300 kilos de pétrole par minute, quelque chose comme ça. Donc ça consomme énormément la post-combustion, mais ça permet de mettre un gros coup de pied dans le derrière. Bref.
D'ailleurs, on va écarter tout de suite le sujet du respect de l'environnement, parce qu'on est d'accord que le bilan carbone de cette expérience, Julien, il est catastrophique.
C'est absolument catastrophique. Le L39, ça a une vitesse de croisière d'à peu près 400 nœuds, donc 750 km/h. Et ça a une consommation à cette vitesse-là d'à peu près 1000 à 1500 litres par heure.
Ok.
Donc.
500 litres à l'heure.
Ouais.
C'est monstrueux.
Ouais, bah, c'est pas fait pour l'économie, hein, c'est fait pour gagner des guerres.
Mais on devrait pas. Ouais, mais c'est ça, mais on devrait pas le comparer à l'heure. Il fait combien de kilomètres? Combien de litres aux 100 kilomètres?
Aux 100 kilomètres, je sais pas, parce que du coup, ça, ouais. Vous allez voir, ça fait 100 kilomètres assez rapidement.
Ouais, c'est pour fun.
Ah, je pourrais vous faire le calcul vite fait, mais à vue de pied, on est sur un peu moins de 200, peut-être à peu près 200 litres par... Non, pas par minute, si. Un peu moins que ça. Bref,
il y a beaucoup de conversions à faire, on fera l'exercice en dehors de l'épisode, du coup. On demandera ChatGPT.
Voilà, et du coup, si vous vous êtes intéressé pour acheter un L39, ça coûte à peu près 300 000 dollars. Pas sur le bon coin, mais...
Ça va, c'est moins cher qu'une Ferrari.
Voilà. Et donc, alors, comment ça se passe? Donc, on arrive là-bas, on commence le briefing. Évidemment, il y a des briefings, c'est des pilotes de chasse, ils adorent les briefings.
Ah oui.
Donc, ils nous racontent un peu l'historique de l'avion. Il y a tout un onglet sécurité, évidemment, parce que on rigole pas. Il y a des sièges éjectables. Hein. Les sièges éjectables, il y a quand même des énormes réacteurs en dessous. C'est un dispositif pyrotechnique, en fait, donc ça explose. Donc, ils disent, il faut pas toucher la grosse manette jaune ici. C'est que si on vous dit, il faut pas toucher aux manches parce que c'est un biplace, donc toutes les manettes et toutes les commandes sont en double, donc en fait si on touche le manche, on fait bouger l'avion.
Je serais pas confiant.
Globalement, il faut toucher à rien, on reste les mains sur les sangles et on attend.
C'est pour ça que sur la vidéo, parce qu'on peut voir la vidéo, il y a le lien dans les notes de l'épisode, on te voit maintenir les deux mortiers. Alors, je savais pas si c'était que t'étais absolument terrorisé par le truc ou si c'est juste parce que c'est une instruction qu'ils donnent, mais quelque part c'est pas si éloigné que ça de la réalité.
C'est la procédure, parce que le cockpit est quand même assez étroit et on a vite fait quand même de toucher quelque chose, donc c'est voilà, on touche et puis on lâche les mains que quand on dit
ok.
On nous donne les procédures en cas d'éjection, quand même, ce qu'il faut faire, en cas de collision aviaire, en cas de perte de conscience du pilote, ce qui peut arriver.
Collision aviaire, ça veut dire si tu te prends un oiseau, c'est ça?
Ouais, ah. ça arrive.
C'est une collision aviaire.
Ça arrive. Prendre des oiseaux et si ça okay. traverse le cockpit, c'est possible que le pilote devant prenne des avions, donc c'est possible qu'il ait. Enfin bref, il y a plein de scénarios catastrophes auxquels on est à peu près préparé. En tout cas, les pilotes sont préparés et nous, on est préparés mentalement. Et bref, et ensuite, on explique le déroulé de la mission, le plan de vol, question. Et on est parti, on se change. Donc on a des combinaisons comme dans Top Gun avec. Il reviendra, mais peut-être la combinaison anti-G, c'est-à-dire que c'est des espèces de systèmes pneumatiques qui sont sur les abdominaux, les jambes, qui viennent se gonfler quand on prend des G pour essayer de garder le sang un maximum au niveau du cerveau.
Pour éviter de s'évanouir, en fait.
Pour éviter de s'évanouir, effectivement.
Ok.
Et voilà, et donc on monte en place arrière et on est parti pour 30 minutes, comme c'était mon cas. Je crois qu'on peut faire un peu plus, mais bref, 30 minutes. Donc 30 minutes, on est allé à Noirmoutier direct, donc La Roche-sur-Yon, Noirmoutier, c'est quand même 80 km, on a fait ça en 15 minutes à peu près, donc ça va très vite. Le décollage et l'accélération, ça va, je pensais que ce serait impressionnant, mais en fait l'accélération rectiligne est relativement constante, et ça, voilà, c'est un petit coucou, donc évidemment ça bouge un peu, Mais ça allait. Ensuite, on a commencé à traverser la couche nuageuse. Il y avait quelques nuages. Alors, on a trouvé un trou. On s'est faufilé entre les nuages pour remonter au-dessus. Là, on sent que ça commence à brasser parce qu'on va quand même assez vite. On va, comme je disais, à 400 km/h. Donc, quand on tire le manche, là, on sent qu'on commence à prendre des jets. Et c'est là que ça commence à faire bizarre. On est allé sur Noirmoutier. On a simulé un largage de bombe sur le pont de Noirmoutier. Donc, on est allé en piqué sur le pont de Noirmoutier. Et ensuite, on est remonté. Donc, les images sont incroyables. Rien que le fait de vivre ça, c'est super. En plus, il y avait un temps super beau sur la côte. Ensuite, on est redescendu le long des sables, sur les sables de l'Aude. Donc, on a longé la côte. On avait un grand ciel bleu. C'était magnifique. La plage et tout. Et ensuite, on a fait un peu de voltige au-dessus des sables d'Olonne. Donc, quelques boucles, quelques retournements. On a pris 5-6 G. Petit, léger voile noir à certains moments. Donc, le voile noir, c'est quand votre sang commence à vraiment quitter le cerveau et que vous commencez à, en fait, plus voir ce qui se passe, que vous n'avez plus trop de sang dans le cerveau. On sent la combinaison qui se met en action. Ça fait bizarre. Je vous invite à regarder la vidéo. On mettra le lien. Je ne fais pas le malin.
On ne se rend pas trop compte parce que tu as des lunettes quand même qui sont... qui prennent une bonne part de ton visage, donc on se rend pas bien compte. Enfin, il faudra que tu nous donnes le time code au moment où on peut se moquer, mais moi je serais pas le malin, moi.
Ouais, je vous invite à regarder. Si vous regardez bien mon visage, on sent quand même que je suis un peu écrasé dans le siège parce que 5-6 G, on pèse 5-6 fois son poids. Donc, c'est des sensations qui sont très bizarres à décrire. Et c'est comme le démarrage du Space Mountain, mais en continu, en fait. Donc, ça fait très bizarre. Et dès qu'on relâche le manche, on se ressent mieux. Et après, on retire sur le manche et on se réécrase. C'est très particulier. Et voilà, bref. Et ensuite, on est retourné sur la roche. J'ai pu prendre un petit peu les commandes. J'ai pas fait grand chose. Et quand même, c'est rigolo. On sent qu'on pousse et puis ça bouge, quoi.
Ça va.
Et voilà, quelques chandelles à l'arrivée sur l'aérodrome parce qu'on avait encore un peu de temps. J'avais envie de vomir, mais j'ai tenu bon, j'ai dit oui à tout ce qu'on m'a proposé, j'ai dit vas-y, je me retiens encore un peu, et on s'est posé, j'étais tout blanc, mais j'ai adoré, donc voilà, c'était incroyable, c'était le rêve d'une vie, et du coup, si c'est le rêve d'une vie pour vous, franchement, vous privez pas, quoi. C'est faisable, en fait, je savais même pas,
ouais.
Donc au niveau du coût, on est, pour Top Gun Voltage, on est dans les 2 800 €, donc c'est beaucoup d'argent pour 30 minutes, mais bon, il y a des rêves qui coûtent plus cher que ça, je pense, si on aime la moto au hasard ou n'importe quoi. Bref, et du coup, ça demande d'être quand même en bonne condition physique. Hein. C'est pas drastique, mais il faut être en bonne condition physique, il faut avoir un certificat médical. C'est rigolo, j'ai un certificat médical qui dit « apte pour voltige en avion de chasse ». Je pense que je vais le recadrer.
Ouais.
Nice.
Et voilà, donc j'ai fait mal le truc un peu dingo dans ma jeunesse, mais ça, c'était vraiment les meilleures sensations. C'est assez étonnant à faire. Donc, je vous le conseille. Et voilà, regardez la vidéo si ça vous plaît. Il y a la vue de l'intérieur et la vue de l'extérieur avec une petite musique.
Je suis hémétophobe, donc j'ai vraiment une terreur absolue de vomir. Donc, le simple fait que tu me dises que tu as eu par moment un petit peu envie de vomir et que tu étais pas l'eau achève de me convaincre pour le fait que c'est pas du tout pour moi. Matt, tu serais tenté pour vivre ce genre d'expérience, toi, de ton côté?
Oui.
T'aimes
oui,
la moto?
Voilà. C'était la question. Est-ce que tu as été en moto, là? Avec une ninja des années 90, à côte avec le jet, t'arrives à l'aéroport, tout. Est-ce que tu as fait ça?
J'ai pas eu cette chance-là. Ah. J'aurais dû mettre un casque, ça valait pas le coup.
Ouais. Leur nom est surfait, Top Gun. Pff, que veux-tu? Ils ont que l'avion, ça va pas. Bon, merci beaucoup, Julien. C'est hyper. Tu sais que sous le côté anecdote, perso, je trouve ça intéressant de voir quand même que tu as cette capacité. J'utilise pas le mot de simplicité parce qu'il faut pas tirer des conclusions hâtives de quelques témoignages en audio en podcast, mais tu as quand même cette capacité, je trouve, à repousser les limites de manière très incarnée. J'espère pas que Matt va... Enfin, je sais pas si Matt va me contredire, mais on n'est pas trop comme ça, Matt et moi, je pense. On n'est pas trop dans le fait de repousser nos limites à titre physique pour vivre des expériences, le trail dont tu nous avais parlé, etc. Donc, écoute, c'est très chouette, bravo. On va enchaîner avec des petits éléments de discussion. C'est très, très loin d'être des dossiers... Est-ce que vous savez ce que c'est que l'adrénochrome, Julien, Matt?
Pas du tout.
Alors l'adrénochrome, c'est une substance, et c'est une substance qui présenterait la particularité de nous aider à ne pas vieillir, ou en tout cas à limiter notre vieillissement. Et c'est une substance qu'on trouverait, tenez-vous bien, dans le sang des enfants. D'où le fait qu'il faut organiser des raptes d'enfants, tels que Q nous l'a appris avec le mouvement QAnon aux États-Unis. Il y aurait même des histoires de rendez-vous secrets dans des pizzerias, le fameux Pizzagate, dans lequel Hillary Clinton et son équipe se seraient organisés pour ce genre de choses. Bon, pourquoi je parle de l'adrénochrome ? C'est parce qu'il y a quelques jours, en France, c'est revenu dans une émission de télé particulièrement sulfureuse, qui est celle de Cyril Hanouna, l'émission Touche pas à mon poste, mais qui a quand même des audiences assez dingues et qui a une force de pénétration auprès du grand public qui est massive. Eh ben, j'étais sur le cul de voir que cette information et cette plutôt désinformation arrivait avec autant de confort à la télé en France. Il y a quelques années, quand on suivait les infos autour de QAnon et compagnie, on se disait en fait quand même pas en France quoi. Et on voit arriver des trucs assez dingues. Donc je fais un petit peu écho à ce que je disais en intro. Pour moi, ces mouvements de 1er avril sur les réseaux sociaux et même dans les médias, bah, quelque part, ça me pose problème. Et je pense que du coup, dériver sur ces sujets-là, c'est très dangereux. Si ça peut rester de l'ordre de la blague dans la famille et dans un environnement proche, peut-être tant mieux. Question, je ne sais pas quelle est votre approche, vous, sur les croyances de manière générale, la désinformation. Est-ce que ça avait eu des échos, Matt, le Pizzagate et l'adrénochrome, maintenant que tu vois bien ce que c'est au Québec?
Probablement à cause de l'algorithme de Twitter, mais je suis très exposé à ces...
À l'info en France.
À l'info française, effectivement. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est... Je suis une bonne personne pour te dire que ça a passé beaucoup. Par contre, il y a quelques émissions que j'écoute au Québec qui relèvent souvent l'émission de Cyril Hanouna comme étant une absurdité sans nom consommée sur plusieurs sujets. Hein. Il y a eu beaucoup de sujets dans les derniers mois où ça ressort. Et à chaque fois, je pense que c'est arrivé à quelques reprises. Je te dis, Guillaume, est-ce que c'est suivi vraiment cette émission-là? Mm. Est-ce qu'il y a beaucoup de codes d'écoute par rapport à ça? Parce que c'est très dangereux ce que j'entends dans cette émission-là. Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. J'ai compris que c'était une émission à heure de grande écoute, avec beaucoup d'audimat. Wow!
C'est dans les périodes d'audience qu'on appelle les access prime time. Donc c'est en gros les périodes qui arrivent après l'heure symbolique du soir, quand les enfants sont couchés, qu'il y a les films et les émissions phares qui sont diffusées. Et c'est 10% de part de marché potentiellement selon les dates. Donc oui, c'est monstrueux. Ça veut dire qu'une période, une personne sur 10 s'intéresse à ces infos-là et à la manière dont c'est véhiculé. Et pendant un temps, il y avait un côté très cool dans ces émissions-là. Très moderne et il y a une dérive complotiste qui est assez dingue. Pareil, juste avant que je conclue sur le sujet, je sais pas si Julien, toi où tu es au Portugal, tu avais eu des échos, toutes ces infos. Tu suis l'info l'info française aussi beaucoup, je pense.
Ouais, je suis l'info française et oui, ça me désole. TPMP, c'est vraiment pour moi la poubelle de la télé. Alors déjà que la télé a assez peu d'intérêt pour moi depuis longtemps, mais alors quand je vois TPMP, ça m'attriste en fait. Ça m'attriste que des gens aillent chercher du contenu là-dessus, qu'ils le croient ou pas en fait. Parce que ça peut être, je peux comprendre même c'est divertissant, mais juste, on peut pas. Ben, je comprends pas. Ça me met un peu en colère. C'est un peu une purge cette émission. Et continue de le prouver. Donc qui continue de le prouver. Hein, peut-être qu'un jour, on s'en débarrassera.
Bon, ils ont été condamnés hein, d'ailleurs pour certaines de leurs émissions, mais je trouve peut-être pas assez. Et alors, juste dernier élément pour relayer ce sujet, il y a une personne qui travaille dans la formation d'ailleurs auprès du monde renseignant pour donner des clés autour justement de la détection de la désinformation. Donc il est plutôt dans un mouvement zététique et de scepticisme. Il s'appelle Vincent Flibustier. Et il a une position qui, moi, me pose question depuis pas mal de temps maintenant, parce que son ambition, c'est de démonter ces mouvements de désinformation. Mais au lieu de les dénoncer simplement, lui, il utilise les mêmes procédés. et il va lui-même créer de la désinformation. Donc, il va créer des grands mouvements avec des vidéos très vues sur notamment son compte TikTok et grâce à son compte Twitter, où il va générer de la désinformation, mais qui concerne directement les personnes qui désinforment habituellement. Et donc forcément, ça donne des résultats assez ubuesques où les personnes qui ont l'habitude de propager des fake news se voient elles-mêmes saisir la justice pour se défendre de situations où on les accuse de choses qui sont à la limite de l'humour, à la limite de la satire, mais aussi quand même à la limite de la désinformation. Et du coup, je me demande si c'est un exercice qui est sain. Finalement, c'est peut-être pas mal qu'il y ait des gens qui le fassent parce que ça permet qu'on se pose la question. Je suis pas certain que ce soit une bonne technique. Et en fait, au quotidien, ça me rappelle tout bêtement à quel point c'est important de ne pas utiliser les mêmes mécaniques et les mêmes procédés qui sont utilisés par les gens qu'on dénonce. Ça vaut au travail, ça vaut auprès des amis, ça vaut auprès de son entourage perso. Moi, je peux avoir vite tendance à me dire, bah tiens, je vais faire comme lui, quoi, au boulot. Il fait comme ça, ça me dérange. Bon, j'ai pas d'exemple précis dans mon monde du travail pour faire le raccord, mais je pourrais me dire, bah finalement, je vais faire la même chose. Bah non, je me rends compte à quel point c'est important de garder un petit peu aussi un mode de fonctionnement qui soit sain et qui ne traîne pas, qui ne prennent pas compte des dérives qui sont constatées quand bien même on les subit. Bon voilà, c'était une réflexion que je me faisais. Si vous voulez entendre plus parler de croyances, je vous invite aussi, vous avez vu l'autopromo génial que je fais, d'aller écouter l'épisode de contrôle parental sur les croyances. Évidemment, ça touche au monde des enfants, mais ça pourra peut-être vous intéresser. Bon voilà, c'était un peu ma discussion de cet épisode. Matt, au passage, toi aussi, tu as des choses à nous partager parce que tu es tombé sur le nouveau service de Microsoft qui a été teasé, annoncé en fanfare. Le but est de manière assez avouée, je pense que c'est très intentionnel de leur part, mais de concurrencer les services à la Notion avec des avantages très concrets, notamment qui sont celles des composants. Alors là, donc Matt, moi je me suis un petit peu amusé avec le service, mais tu voulais nous en parler plus en détail.
Je ne connais pas assez de notions pour dire que il y a beaucoup de personnes hein, qui le comparent à Microsoft Loop, c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
Oui.
Qui compare ça à Notion. Je ne suis pas certain que ça se compare vraiment comme type de produit.
D'accord.
C'est pas vraiment fait pour le même usage. J'ai vaguement l'impression. Là, je vous le partage, messieurs, et comme ça, vous allez pouvoir voir des images et appuyer deux mots. Parce que c'est un podcast audio, les choses que j'oublierai de mentionner. Microsoft Loop, c'est un outil, bien évidemment, de co-création, un peu à l'image de tous ces outils, ces services-là. Présentement, moi, j'ai la version, il va y avoir des versions applications, mais présentement, j'ai la version preview, qu'on appelle, de Microsoft Loop, qui est à partir d'un navigateur. On change un petit peu chez Microsoft du « tu veux faire un document Word, tu veux faire un Excel, tout Excel, tu veux faire un PowerPoint, tu fais un PowerPoint, tu veux faire un OneNote. » On essaie de rassembler un peu tous ces formats-là dans cette application, ce qui est bien vu parce que moi, au travail, bien souvent, il m'arrive assez régulièrement de devoir jongler d'un fichier à un autre, tout dépendant ben, les forces du programme. Typiquement, quand je fais une présentation, c'est tout de suite PowerPoint, mais des fois, on arrive dans des budgets où là, il faut que je switch pour Excel, même si on peut les intégrer, faire des embeds. Bref, c'est un peu l'idée de Loop, de Microsoft Loop, de faire ça comme ça. C'est basé sur un vieux framework que je vois enfin arriver, qui est un peu partout dans Microsoft, sans vous le sachiez. Ils appelaient ça Fluid à l'époque, F-L-U-I-D. L'idée d'avoir un composant, et ça va vous poser de sérieux problèmes dans l'avenir pour Fluid, c'est l'idée d'avoir des composants qui sont constamment mis à jour. Alors, typiquement, vous pouvez prendre un composant Fluid pour faire un bout de texte, un composant Fluid pour faire un tableau, un composant Fluid pour faire un sondage, des choses comme ça. Évidemment, tous ces composants-là sont dans Loop, quand vous arrivez dans Loop, vous pouvez jouer avec ça. Le bémol que je vous dirais par rapport à ces composants fluides-là, c'est que quand vous allez les copier-coller directement dans d'autres services, bien là, vous allez avoir le problème suivant, c'est que si vous envoyez un tableau qui est en format fluide dans un email, dans Outlook typiquement, et puis vous le mettez à jour, ben, tous vos collègues de ce composant fluide-là ben, vont avoir les mises à jour. Alors, vous ne serez pas... Si l'idée, c'est de changer après envoi un tableau à votre patron, ben c'est bien, ça va le faire. Mais si vous pensiez continuer à travailler sur une V2 pendant que tout le monde regarde la V1, vous êtes un petit peu dans la merde. Alors, Loop, c'est une agrégation de plusieurs types de composants, des tableaux, des présentations, des bouts de texte. C'est avec des espaces de travail, des grosso modo, là, vous avez plusieurs espaces de travail que vous pouvez créer. Dans chaque espace, vous allez pouvoir faire des feuilles et créer des composants dans ces feuilles-là. Alors, c'est vraiment espace de travail, page et composants. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est divisé comme ça. Présentement, on est en preview de ce nouveau service-là. Moi, j'ai Microsoft 365 que je paye annuellement. Je l'ai aussi au bureau. Je travaille là-dedans, mais je sens venir la complexité des gens qui ont beaucoup de difficultés à comprendre que quand ils sont en collaboration et que tu travailles dans un Word avec eux, que ça change en même temps, en live, là, un loop, je vois ça venir gros comme gestion du changement à faire au bureau pour leur dire « Ouais, juste ce petit bout-là, je l'ai copié dans un Word et j'arrive à le modifier pendant que tu es en train de le lire. » Bref, ça amène toutes sortes de problématiques, mais en même temps, ça répond à certains problèmes qui étaient de justement essayer de faire un espace de travail avec plusieurs composants, PowerPoint, Excel, Word, tout ça ensemble. Bref, c'est en preview. Pour le moment, je vois qu'il va y avoir beaucoup de complexité par rapport à l'appréhension de l'intégrer dans son travail au quotidien avec des gens qui sont plutôt de la vieille école. Les jeunes, ça va bien aller. Alors, si vous commencez à avoir ça au travail, ben peut-être le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est de vous jeter pas tout de suite. Tant que votre entreprise a pas mis les formations en place, tant que tout votre personnel n'est pas habitué à ce type de collaboration-là, je pense que ce ne serait pas une bonne idée de se jeter là-dedans. Par contre, à titre personnel ou des micro-équipes qui sont très, très connaissants par rapport à ça, je pense que ça peut très bien le faire. Moi, je m'amuse à tester dans Microsoft Loop. L'autre avantage, c'est que quand vous avez Microsoft Loop, ben, la plateforme Power Automate, qui est l'équivalent de IFTTT, Zapier là, chez Microsoft, ben, vous allez pouvoir l'intégrer et faire des workflows super cool avec. Alors, c'était mon petit test du mois avec Microsoft Loop.
Ce qui est rigolo avec Loop, c'est que il y a pas la fonction que je trouve assez clé dans Notion qui est d'afficher, de structurer la même information de manière différente. Dans Notion, quelque part, ouais, quand on a structuré une info, on peut tout à fait mettre une autre vue, une vue chronologique, une vue tableau, etc. Là, c'est pas le cas, mais quelque part, ce qui est quand même rigolo, c'est de voir qu'ils ont aussi le même objectif, avec une approche peut-être évidemment très différente, qui est que ces vues différentes, on pourrait très très bien les imaginer avec les différentes applications de la suite Office. Donc, on voit que leur démarche, elle est quelque part conjointe, mais évidemment, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Notion, ils arrivent avec un service que tu prends parce que voilà, tu as un petit indé, tu es une start-up, tu peux te faire plaisir, tu vas de manière assez souple dessus. Microsoft, ils parlent à des entreprises qui ont un peu plus de collaborateurs, un peu plus de contraintes dans les applicatifs qui sont laissés aux utilisateurs. Et donc, évidemment, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Julien, tu lui donnes un combien sur 10 pour l'instant à Loop entre « je ne veux pas en entendre parler » à « je bascule tous mes applicatifs dans Loop demain ».
Oh, je vais pas prendre de risque, je vais dire 5.
Ok, oh oui, non, tu te mouilles pas, c'est facile, très bien.
Non, peut-être, non, je suis assez intrigué, j'avais vu quand ils l'ont présenté, et c'est intéressant, mais je partage tout à fait l'avis de Matt. Il y a pas mal de gens qui ont déjà du mal avec Word ou Excel ou PowerPoint. Donc, tout mettre en même temps, en live, etc., ça va être très intéressant. J'ai envie de dire, le seul problème dans cette idée, c'est Microsoft. Mais ça, on va dire que, que je suis mauvaise langue.
Comprenez-moi bien, je ne suis pas le genre de gars à défendre Microsoft de par tous mes podcasts. mais pour vrai... Au niveau entreprise, ils sont assez durs à battre hein, dans l'offre groupée qu'ils peuvent avoir. Je vous avoue, moi, je trouve que Google n'arrive pas à la cheville, Zoho, tous ces autres écosystèmes-là qui arrivent. Ils ont un héritage, ils réussissent à se transformer. Puis dites-vous aussi que Copilot arrive aussi dans toutes les solutions cloud de bureau. Alors, quand Robert va voir qu'il peut composer tout de suite un mail tranquillou, sans vraiment s'impliquer ou s'investir là-dedans, ça va être une bombe. Pour vrai, l'offre de Microsoft est assez dure à battre. Pour le moment, ils sont pas mal tout seuls dans leur cours, je trouve.
Auprès des clients qu'ils ont aujourd'hui, je pense qu'ils ont gagné une crédibilité de dingue. Et puis maintenant, au-delà des services, il y a aussi les enjeux de conservation de la donnée, de respect de la législation. Et là-dessus, accrochez-vous, hein, Microsoft, ils savent faire et ils savent convaincre des boîtes qui ont un conservationnisme exacerbé sur ce sujet. Probablement à raison, mais ils sont très bons là-dessus. Eh ben, merci pour cet aperçu, Matt. Je ne doute pas une seconde que tu nous tiendras au courant des avancées de Loop. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont lancé cet applicatif plutôt que de sortir une nouvelle version des applications Office qui ferait la même chose. En fait, tu pourrais avoir les compos. Bon, bref, voilà. Pourquoi il n'y aurait pas juste Fluid, mais intéressant. On va conclure cet épisode avec une citation. Matt, c'est toi qui vas nous offrir cette minute d'inspiration.
Ben, de M. Churchill, il y en a plusieurs très, très bonnes et savoureuses.
J'ai cru que tu allais nous dire qu'il y a plusieurs Churchill et je ne voyais pas qui il y avait.
Il y a Robert, il y a Bob. Non, en c'est fait, donc... c'est une citation que j'utilise énormément au bureau. De par mon travail, moi, je suis dans les nouvelles technologies, la transformation digitale, en fait, nommez-les, et j'amène souvent le changement et je me rends compte que à certains égards, les managers que je dois appuyer avec mes nouvelles solutions, je me rends compte que ça devrait être des étoiles en termes de gestion de changement et des étoiles dans la bonhomie et la bonne humeur et être capable de aimer. Pourtant, je sors souvent cette citation-là, qui est la suivante. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et ça, pour moi, je sais qu'on... Il y a beaucoup de nuances dans la vie, ce n'est que nuances. Mais ça, j'arrive quand même à classer deux catégories de personnes au travail souvent avec cette citation-là.
Et est-ce que ça t'aide à en tirer des conclusions? Tu sais, ça te donne des leviers d'action ou des manières d'appréhender la relation avec les gens de manière différente quand tu arrives à les étiqueter de cette manière-là?
Oui, j'essaye plus de trouver avec les personnes... Je vais travailler plus sur une planification, un plan de travail avec les personnes qui sont pessimistes pour arriver à
rassurer
la nouveauté et ainsi de suite. Tandis que les autres, j'ai pas besoin vraiment. Ils ont hâte d'avoir des nouveautés, ils ont hâte d'avoir des nouveaux outils. Ils ont hâte
faut presque plus les cadrer, eux, peut-être.
Oui, en fait, faut avoir eux, le problème, c'est la gouvernance, bien souvent. C'est qui va avoir le droit de faire quoi dans les applications. Alors, faut juste calmer l'enthousiasme, effectivement. Les autres, il faut les amener à être enthousiastes. Des fois, c'est plus dur. Et puis, des fois, ça vient de plus se chercher parce que c'est fatigant de tirer des gens à leur dire, tu sais, le changement, c'est toute ta vie que tu vas en avoir.
Il faut
que tu t'adaptes.
Et peut-être de plus en plus au fur et à mesure que le temps va passer, que l'évolution technologique s'installe. Julien, alors, de toute façon, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Hein. J'imagine qu'on est toujours un peu une composante de pessimiste et d'optimiste. Julien, si tu devais te donner un pourcentage pour chacune des deux traits de caractère, pessimiste, optimiste, tu donnerais combien?
Je vais te dire, je vais faire le mathématicien, je vais te dire c'est...
Ne me dis pas 50-50, hein.
Attention. C'est une fonction qui fluctue en fonction de mon nombre d'heures de sommeil.
Ah ouais.
Mais non, je suis quelqu'un de relativement optimiste et surtout le côté opportunité dans chaque difficulté, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au travail aussi. Alors, on n'a pas toujours que des bonnes nouvelles à annoncer, mais quand je vois un collaborateur, si je viens avec une mauvaise nouvelle, je viens aussi avec pas une solution pour contrecarrer la mauvaise nouvelle parce que ça, c'est arrivé, on n'y peut rien. Par contre, je peux amener avec une opportunité et lui dire « Bon, il s'est passé ça, mais... » Par contre, du coup, ça donne l'opportunité de faire ça et de faire ça. Et du coup, tu vas en tirer quelque chose. On va en tirer quelque chose tous les deux. Et ça va t'emmener un peu plus près de ton objectif. Ça va emmener l'entreprise plus près de son objectif. Donc, c'est quelque chose qu'on peut quand même utiliser. C'est un levier. Et même si la personne est pessimiste, peut quand même l'emmener quelque part. Et je trouve que c'est important de, voilà, d'aller de l'avant, quoi, plutôt que de juste visualiser les obstacles à chaque fois. C'est bien de les visualiser, mais surtout de voir comment est-ce qu'on peut passer à côté, quoi.
T'es viré, mais quand même, bonne opportunité, t'auras du temps pour toi, pour te former, c'est très bien. Matt, quel pourcentage d'opportunités, de pessimisme et d'optimisme, toi ?
Ah, j'aime beaucoup la réponse de Julien, ça va avec mon...
avec mon nombre d'heures de sommeil. Ouais.
Ça va avec la fatigue. Naturellement, je pense que je suis le golden retriever, là, qui est tout le temps heureux, puis tu sais pas pourquoi. Même des fois, je me rends compte, je suis dans des rencontres, puis c'est des sujets plutôt tristes ou stupide parfois, et puis je suis très heureux, je suis là, ouais, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, ouais, super les gars, et à certains égards, je peux faire chier des gens à cause de ça, mais je préfère le voir de ce côté-là, mais ouais, effectivement, quand t'es fatigué ou quand t'es malade, ben, le négatif peut prendre des fois le dessus.
À sommeil constant, du coup. Faites-vous l'exercice et puis dites-nous dans un message sur relifepodcast.com, un petit message audio de 1 minute maximum, si vous êtes plutôt tendance pessimiste, optimiste ou un savant mélange des deux, à sommeil constant encore une fois. Une fois que vous aurez fait cet exercice, on compte sur vous pour aller déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou mettre des étoiles sur Spotify et puis envisager le fait de nous soutenir financièrement sur patreon.com/relifepodcast. Vous aurez peut-être des segments audio de cette émission qui ont été tronqués pour notre image et qui vous seront mis en exclusivité pour vous qui nous soutenez. Et surtout, hein, vous accompagnez un petit peu ce travail qu'on fait, qui est certes une passion, mais qui représente toujours un petit investissement en temps. Et on est évidemment ravis que vous le considériez à votre niveau. Et puis, on reste tous autant qu'on est joignables à titre individuel. On va commencer par toi, Julien, si on veut en savoir plus sur tes virées en avion de chasse ou ta gestion du sommeil, ta gestion des finances, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, sur julienpourandesrepond.fr, vous aurez tous mes liens vers Instagram plutôt pour les avions de chasse et puis sur Relife pour la partie finance. J'ai un podcast qui s'appelle Agilist aussi où on a plein d'invités en ce moment. C'est assez fou ce qui nous arrive et c'est très cool, on apprend plein de choses et on espère que nos auditeurs aussi. Voilà, c'est à peu près tout.
C'est plein d'invités parce que vous en invitez plein ou parce qu'il y en a plein qui s'invitent ?
Il y a un peu des deux, en fait. Je fais un petit peu le tour aussi pour essayer de faire des crossovers en anglais pour aller vendre mon bouquin. How I Plan My Wedding with Scrum, si ça vous intéresse. Mais du coup, on fait des crossovers avec d'autres podcasts anglophones et francophones. J'ai des gens qui me contactent pour venir parce qu'on fait souvent des appels pour, disons aux gens, si vous avez des trucs à nous dire, venez les dire. Et puis aussi dire aux gens, si vous avez envie d'entendre quelqu'un, s'il y a une sommité, quoi que ce soit, dites-le nous. D'ailleurs, je fais un petit appel à Philippe Etchebest. J'aimerais beaucoup avoir son avis sur l'agilité dans le monde de la restauration, s'il nous écoute.
Gros sujet, j'adore. Très bien. Je ne sais pas si Philippe Etchebest écoute Relife, mais s'il le fait, je ne doute pas une seule seconde qu'il te contactera. Très bien. Eh ben, écoute, passionnant. Pour la petite anecdote, moi, j'avais créé le compte Twitter de Cyril Lignac à l'époque. Je lui ai recédé une fois que justement la désinformation et la blague étaient allées trop loin. Mais c'était moi qui étais derrière son compte Twitter. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel?
Profduweb.com, il y a pas mal tous les liens pour retrouver mes productions. Et sur un autre podcast qui s'appelle Apple Différemment, que je fais avec Audrey Coulot. Dans les derniers épisodes, on a parlé de HomeKit, on a parlé, si ça vous intéresse, la domotique. On a parlé aussi de stockage, on a parlé de nos usages avec l'Apple Watch. Bref, on tourne autour d'Apple, mais pas nécessairement toujours avec voici la dernière version de iOS et voici ce qu'elle promet. Il y a deux nouveaux emojis. Non, on est plus sur les usages et son histoire parfois. Alors, si vous appréciez cet écosystème, vous pouvez aller rechercher dans votre application.
Et puis, Matt.
Utilisez présentement.
Matt aime décidément beaucoup trop Apple, puisqu'il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Apple et compagnie, où il vous parle notamment de plein d'applications, beaucoup sur Mac d'ailleurs. Donc, on compte sur vous pour aller vous abonner, bien évidemment. Je suis Guillaume Vendée, rendez-vous sur guillaumevendée.fr pour en savoir un petit peu plus sur ce que je fais. Je diffuse notamment deux fois par semaine un épisode de Tech Café et de manière plus irrégulière, mais quand même constante, je diffuse aussi des épisodes de Contrôle Parental. Si vous aimez Fortnite, si vous voulez en savoir plus sur le monde du e-sport et des jeux vidéo, abonnez-vous à Contrôle Parental, je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de ReLife. Ciao à toutes et à tous.
Ciao, ciao.
Salut.
Et puis une fois que vous aurez fait ce petit exercice, je vais la refaire, voyons.
Bah oui.
Une fois que vous aurez fait ce petit exercice, on comptera également sur vous pour faire savoir au podcast, comment on dit, au poditeur, voilà, au poditeur.
Bah oui.
Elle est compliquée cette fin d'émission pour moi.
Mais toi, étant une sommité du domaine du podcast, t'as oublié. Pour qui tu travaillais, Guillaume?
C'est tellement dur. C'est tellement dur. M'en voulez pas, les gens. Je vais donc la refaire.
Et je la couperai pas au montage. Je vais la garder.
Oh, faut en faire un supplément pour les Patriotes, peut-être. Voilà. Je sais pas. Bon.